France Culture. Dans quelques jours, 980 000 lycéens et étudiants en sauront davantage de l'avenir que leur a réservé la plateforme Parcoursup sur laquelle ils sont inscrits. Lundi 2 juin, en effet, débutera la phase d'admission, c'est-à-dire l'étape où les premiers résultats commenceront à tomber. Certains se voient directement acceptés dans la formation de leur choix, tandis que d'autres doivent continuer d'actualiser la page qui, tous les matins, leur montrera la façon dont l'algorithme a travaillé, autrement dit, fait le tri entre leurs choix classés par ordre de préférence et le désistement de leurs camarades. Un moment de tension, de soulagement ou de déception, d'espoir et parfois de désillusion qui raconte la façon dont aujourd'hui fonctionne la sélection vers la vie après le bac. Mais en réalité, ce processus de sélection a commencé bien avant l'inscription des vœux sur la fameuse plateforme. Tout au long de leur parcours scolaire, les élèves ont fait des choix, élaboré des stratégies en fonction de leurs préférences, de leurs résultats, de leurs aspirations, mais aussi des conseils de leur famille, de leurs proches et évidemment de leurs professeurs et de leurs conseillers d'orientation. Des choix qui relèvent donc d'un calcul plus ou moins assumé comme tel, car certains facteurs qui pèsent dans la décision ne sont parfois pas identifiés et surtout relèvent de la contrainte, qu'elle soit économique, financière, sociale ou géographique. Alors entre contrainte et préférence, nos homo economicus d'aujourd'hui sont donc ces lycéens qui doivent évoluer sur un marché bien spécifique, celui de la formation. Or ce marché est aussi construit politiquement et comporte de nombreux biais, des dispositifs d'incitation et de sélection qui influencent la rationalité du choix des élèves. Dans un tel contexte, comment s'opère véritablement ce choix? Quelle place y occupent les enjeux de rentabilité du diplôme et dans quelle mesure les élèves cherchent-ils avant tout à optimiser leurs chances de réussite? Quel but poursuivent les politiques d'orientation? Permettre le meilleur appariement possible entre compétences, goût des élèves et capacité d'accueil dans les filières concernées et in fine sur le marché du travail? Aspirations individuelles et configuration institutionnelle du système sont-elles compatibles? C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre dans cette émission programmée et préparée par Tina Young, réalisée par Françoise Le Floch et mise en onde aujourd'hui par Ruben Carmazine. Pour revenir sur les logiques des choix des lycéens et les contraintes avec lesquelles ils doivent composer, j'ai le plaisir de recevoir Georgia Thébault, chercheuse postdoctorante en économie de l'éducation à l'Université Paris-Dauphine PSL, et Paul Lehner, maître de conférence en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Lille. Bonjour et bienvenue à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et je précise, Paul Lehner, que vous êtes l'auteur d'un ouvrage intitulé « Les conseillers d'orientation, un métier impossible », tout simplement, paru aux presses universitaires de France en 2020. Alors, Georgia Thébault, pour bien comprendre le champ disciplinaire aussi dans lequel on se situe et pourquoi, et c'est très souvent ce que l'on fait le lundi dans ces épisodes d'Homo Economicus, mais de comprendre pourquoi l'économie fourre son nez dans des domaines où on ne l'attend pas forcément, on pourrait se dire que, d'une certaine manière, la formation des élèves correspond à un marché, il y a une offre, ce sont les parcours proposer la formation et il y a une demande, ce sont les élèves, mais est-ce vraiment un raisonnement qui tient la route? Est-ce en tant que marché véritablement que vous analysez les enjeux de formation en tant que vous-même économiste?
Alors, merci beaucoup pour votre invitation. Je voudrais juste commencer par rappeler un fait, c'est que l'éducation actuellement, c'est un des premiers postes de dépenses publiques en France. Donc en 2022, la dépense intérieure d'éducation, c'était 180 milliards d'euros, largement assurée par l'État et les collectivités territoriales, et donc 40 milliards étaient alloués à l'enseignement supérieur. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte, la science économique ici? Ben, la science économique, elle a développé des outils qui nous permettent de questionner deux choses, essentiellement. D'abord, un, le niveau des dépenses, donc combien on alloue à l'éducation. Et le deuxième point, c'est l'allocation des ressources, donc comment on répartit ces différentes dépenses sur les différents agents, sur les différents degrés. Et pour cela, il faut non seulement des infos sur le coût des politiques publiques, donc combien ça coûte, par exemple, d'ouvrir une nouvelle classe préparatoire, mais aussi des informations sur leur efficacité à ces politiques publiques. Et c'est là que la science économique a développé un certain nombre d'outils d'évaluation d'impact des politiques publiques qui nous permettent vraiment de savoir quelles sont l'efficacité de ces politiques éducatives qui sont mises en place. Et là, il y a deux enjeux importants qui vont nous intéresser, je pense, aujourd'hui. Le premier, c'est la question de l'efficacité des systèmes scolaires. Donc, en fait, par rapport à un certain nombre de variables d'intérêt, donc historiquement, on s'est beaucoup intéressé à la question des performances scolaires, mais pas que, on peut aussi s'intéresser au bien-être des individus, aussi à leur orientation. Et le deuxième point, dont je pense qu'on va parler un peu plus longuement aujourd'hui, c'est la question de l'équité du système. Et donc, c'est un enjeu particulier particulier en France, parce que la France, ça fait partie des pays de l'OCDE où les inégalités scolaires sont le plus marquées, donc c'est-à-dire où le lien entre origine sociale et acquis et connaissances est le plus fort. Et ça, ça va avoir un impact sur les trajectoires éducatives et puis ensuite sur les revenus et l'insertion professionnelle. Donc, pour revenir à votre question, effectivement, l'économie a sa place dans l'étude de l'éducation, pas seulement en tant qu'analyse théorique, marché, demande d'éducation, mais aussi parce qu'on utilise un certain nombre d'outils qui permettent vraiment de piloter ou d'orienter en tout cas les politiques publiques éducatives.
Paul Lehner, pour vous, la problématique est un peu différente puisque vous êtes sociologue, je le disais à l'instant. Est-ce que cette approche, qui n'est pas forcément celle qu'on va mobiliser pendant toute l'émission, mais qui est celle d'une partie des économistes de l'éducation, cette approche par le marché, l'idée de scruter ce qui concerne la demande, de scruter la façon aussi dont l'offre se structure, est-ce qu'elle a un sens pour vous? Est-ce que, en tant que sociologue, ça fait au moins partie, on va dire, de la structure qui vous permet de comprendre ensuite les comportements au sein de cette structure institutionnelle que serait ce marché entre plein de guillemets, encore une fois?
Oui, alors moi, j'ai une formation de sciences politiques, donc de sociologie politique de l'éducation. Et donc, c'est vrai que la question de l'orientation, moi, je vais la travailler d'un point de vue aussi socio-historique. L'idée, c'est de voir que cette question de l'orientation, elle survient au moment où on va parler d'une école unique. Vous aviez deux ordres qui étaient l'ordre primaire et l'ordre secondaire, pour le faire vite. Et le passage pour aller, par exemple, dans des filières un peu plus longues, la sélection s'effectuait sur la base de l'origine sociale. Et un certain nombre de réformateurs de l'école ont pensé à une sélection en cours de scolarité. Et cette sélection en cours de scolarité, elle devait se définir. Alors, elle se définissait à partir de quoi? À partir de quels critères? À partir de quelles normes? Donc, l'orientation était considérée comme un enjeu de lutte à la fois professionnelle, politique et scientifique. Et ce qui fait que moi, je vais m'intéresser à la manière dont l'orientation est cadrée comme un problème public, comme un problème politique, grâce notamment à une série de données, comme par exemple des archives. Mais ça va aussi être travaillé en enquêtant, par exemple, à l'échelle de certains établissements pour voir concrètement comment cette politique se met en œuvre et quelles sont les conséquences qu'elle peut avoir sur les pratiques, mais aussi pratiques professionnelles, mais aussi sur les élèves.
Il y a donc la notion très importante de rapport de force dans ce que vous nous dites, qui est à la fois un rapport de force qui se constitue sur le temps très long de l'histoire, et aussi qui est incarné dans certaines politiques publiques. On retrouve là le lien aussi avec les travaux de Georgia Thébault. Cela dit, Paul Lehner, est-ce que malgré tout, cette idée d'avoir des individus qui adaptent leur comportement aussi en fonction de ce qu'on produit, ces fameux rapports de force, reste une bonne clé de lecture? Est-ce que on peut dire que les élèves et leurs parents et leurs accompagnateurs, on va dire en termes de réflexion, notamment sur leur choix d'orientation, tout cela évolue et est compréhensible uniquement si on prend en compte effectivement la façon dont changent les institutions et donc ce marché de l'éducation et de la formation?
Oui, je pense que c'est indispensable. On ne peut pas travailler sur les choix d'orientation si on ne voit pas comment ces derniers sont construits, définis, comment l'espace des pensables et des possibles est prédéterminé par un certain nombre de choix politiques. Autrement, on resterait finalement sur des choix scolaires qui seraient distincts de l'histoire de l'école. Et voilà, donc il n'y a pas de choix sans considération pour l'histoire de l'école.
Alors si on part de ce concept, en tout cas de marché, en tout cas d'essayer de comprendre comment évolue offre et demande de façon assez concomitante, Jean-Jacques Thébault, il faut mentionner d'entrée de jeu qu'il s'agit d'un marché, là encore entre guillemets, largement contraint. La principale contrainte, elle vient des taux de pression croissants sur les capacités d'accueil des formations d'enseignement supérieur. Le nombre d'étudiants a été multiplié par 8, passant de 310 000 en 1960 à plus de 2,8 millions en 2020. Dans quelle mesure on peut dire que c'est effectivement un marché qui n'est pas parfait, un marché qui est en fait structurellement défaillant, et c'est cela aussi qui intéresse les économistes?
Alors ici, avant de s'intéresser à la question des défaillances, et en tout cas des inégalités, je voudrais juste revenir sur un point, je pense qu'il est important de souligner ici, c'est pourquoi on s'intéresse souvent à cette question de l'accès à l'enseignement supérieur. Parce que en termes de politique publique, on pourrait dire qu'on a fait le tour. Eh bien en fait, la littérature scientifique, elle est assez unanime quand même sur l'existence de bénéfices publics ou privés liés à l'élargissement de l'accès à l'enseignement supérieur. Encore aujourd'hui, donc avoir un diplôme de l'enseignement supérieur, ça permet une meilleure insertion sur le marché du travail, de meilleures meilleure rémunération tout au long du cycle de vie, un certain nombre de bénéfices non pécuniaires pour les individus, une plus grande satisfaction au travail, une meilleure santé. Ça reste un vecteur essentiel de mobilité sociale aujourd'hui, donc c'est-à-dire ça amoindrit le lien en fait entre l'origine sociale des parents et ensuite la position d'un individu dans la société. Et puis après, puisqu'on parle d'économie, il y a un certain nombre d'externalités positives ici sur la croissance et sur l'innovation. Donc en fait, il y a plein de bonnes raisons pour que les gens aillent dans l'enseignement supérieur et poursuivent des études supérieures. Mais parallèlement à ça, et ça revient au point que soulignait Paul tout à l'heure, bah, il y a deux faits majeurs qui caractérisent, on va dire, les dernières décennies. Le premier, c'est la persistance des inégalités d'accès à l'enseignement supérieur en France. Donc, il y a des travaux, notamment de Cécile Bonneau et Sébastien Grosbon, qui montrent que l'accès reste 3 fois plus fréquent chez les jeunes issus de milieux aisés que chez ceux issus de milieux plus modestes. Et en fait, ce qui est très intéressant ici, c'est que ces niveaux d'inégalité, ils sont comparables à ceux qu'on observe aux États-Unis, alors qu'on a des systèmes, en fait, qui sont très différents. Et le deuxième point, c'est que les individus vont se répartir de manière très inégale en fonction de leurs caractéristiques, on va peut-être y revenir plus tard, leur genre, leur origine sociale ou encore leur origine géographique. Et donc, c'est particulièrement présent. Voilà.
On va effectivement y revenir et on va aussi s'attarder sur les conséquences de ces inégalités que vous venez d'évoquer, Georgia Thébault. Avant cela, il y a quand même, je voudrais quand même insister sur cette tension un peu fondamentale aussi, dès lors qu'on parle de ce marché de la formation. Dans quelle mesure c'est effectivement ce boom démographique, alors qu'il y a eu en plusieurs étapes, mais dans quelle mesure cette pression démographique-là qui vient changer la donne aussi, qui vient bouleverser la façon dont on conçoit à la fois d'un point de vue très économique cet appariement aussi entre offre et demande, et puis on le verra d'un point de vue des sciences politiques et de la sociologie, les stratégies des individus, mais est-ce que c'est vraiment cela qui a changé la donne où on s'est dit il y a potentiellement un problème de marché défaillant en ce qui concerne l'éducation ?
Alors, ici, en fait, les contraintes qui pèsent sur les choix d'orientation des élèves, je pense que ça fait très longtemps qu'on les a quand même assez identifiées. En France, on a un contexte particulier qui est celui, effectivement, on va dire, qui est en train de changer d'ailleurs, parce que le contexte démographique change, mais on va dire du baby boom de la fin des années 2000, enfin du début des années 2000, pardon, mais qui est aussi couplé avec, je pense que Paul va revenir là-dessus, sur les certains objectifs, notamment en termes de secondaire, donc 80% d'une génération baccalauréat, et donc ça pousse de plus en plus de gens à aller dans l'enseignement supérieur. Donc ça, effectivement, ça pèse, ça fait un certain nombre de contraintes sur les capacités d'accueil de l'enseignement supérieur qui ne se sont pas nécessairement adaptées à cette pression démographique. Après, les contraintes qui pèsent sur les choix d'orientation des élèves, elles n'ont pas énormément bougé. Ça reste toujours un peu les mêmes structurellement, c'est-à-dire des contraintes matérielles, d'information ou encore des freins psychologiques et socioculturels à l'entrée dans le supérieur.
Et effectivement, c'est là que ça devient intéressant, Paul Lehner, c'est que il y a effectivement une volonté politique aussi derrière tout cela, n'est pas arrivé purement par hasard. Alors certes, il y a la démographie qui joue, mais on le disait à l'instant, il y a la fameuse loi d'orientation sur l'éducation de 89, dite loi Jospin, qui a fixé l'objectif de 80% d'une classe d'âge au niveau du baccalauréat, et en 85 est créé le baccalauréat professionnel. À ce moment-là, les effectifs du secondaire ont largement explosé, puisqu'entre 85 et 95, le nombre de bacheliers au sein d'une génération est passé de 36 à 63%. Paul Lehner, on pourrait se dire aussi que la massification de l'accès à l'enseignement supérieur ne va pas forcément avec une égalisation des trajectoires scolaires. Les deux ne vont pas forcément de pair, ou en tout cas ne sont pas pensés exactement dans la même temporalité. C'est cela qui crée potentiellement une forme de décalage aussi.
Oui, il y a un décalage parce que il y a d'un côté cet appel à la généralisation de l'accès à l'enseignement supérieur, avec, comme vous l'avez rappelé, 85, puis 89, et puis d'autres lois. Et par ailleurs, c'est que l'orientation a pas été pensée comme simplement dans l'objectif d'élargir cet accès à l'enseignement supérieur, mais il y a aussi une autre contrainte, c'est celle de canaliser au maximum les vœux. Donc on pousse à une scolarisation plus longue, et en même temps, on veut que cette scolarisation qui soit prolongée, elle corresponde à minima à certaines orientations, sans mauvais jeu de mots, qu'on aurait identifiées. En fait.
Et sachant que ça, c'est une logique, et c'est ce qu'on découvre en lisant vos travaux, mais ça, c'est une logique qui vaut pour peut-être l'intégralité aussi du parcours historique de cette préoccupation pour l'orientation des élèves. Dès le début du XXe siècle, on retrouve cette idée de canaliser tout en accompagnant ce mouvement de massification, alors qu'il est bien moindre au début, mais il y a quand même cette idée d'essayer de ménager chèvre et chou tout au long du XXe siècle.
Oui, vous avez raison, c'est-à-dire que c'est plutôt... donc, vous aviez une logique qui était un petit peu classique, c'est-à-dire que l'orientation, quand on a commencé à en parler, surtout après la Seconde Guerre mondiale, elle avait deux objectifs. C'était à la fois donc satisfaire les besoins de l'économie Et d'autre part, il s'agissait aussi de préserver la valeur de certaines filières d'enseignement. Donc ça, on le voit très bien à travers des archives. Vous allez aux archives nationales, vous prenez les archives de Henri Domergue, qui était conseiller auprès de Gaulle. Vous prenez un certain nombre d'archives de cabinets ministériels. Et vous voyez bien qu'il y a des objectifs à atteindre pour satisfaire à la fois les chiffres et les estimations du Commissariat général au plan. Donc ça c'est très clair, sauf que à la fin des années 60, vous avez une critique assez importante sur d'une part la logique adéquationniste, c'est-à-dire que la relation formation-emploi, elle est introuvable, et ça fait d'ailleurs l'objet d'un article de Lucie Tanguy, l'introuvable adéquation formation-emploi, et d'autre part vous avez aussi la diffusion d'un certain nombre de résultats de travaux de recherche, notamment de l'INED, mais aussi de Bourdieu et Passeron, sur justement, c'est ce que disait Georgia, à savoir les inégalités en matière d'orientation. Et donc, ça conduit, si vous voulez, y compris De Gaulle, qui était pourtant pour un système d'orientation un peu autoritaire en fonction de certaines prévisions économiques et politiques, à proposer un système d'orientation qui serait plus libéral. Alors, quand je dis plus libéral, ça ne veut pas dire que, du coup, ces critères d'ordre socio-économique et culturel, on les met de côté. Mmh. On va, l'orientation, et le système éducatif et la sélection reposeront toujours sur ces critères. Néanmoins, l'orientation sera plus décidée par l'institution, mais on va confier la responsabilité des choix d'orientation à l'élève et à sa famille.
Tout en les accompagnant tout de même.
L'accompagnement à l'orientation vient plus tard. C'est-à-dire que on le voit régulièrement quand vous consultez les archives du cabinet Abi, mais aussi de Christian Bellac, qui sont donc des ministres de l'Éducation nationale, mais aussi avec Savary quand la gauche arrive au pouvoir. Il y a cet objectif qui est régulièrement affiché, qui est celui de réduire le plus possible les orientations dites subies. On veut passer donc d'une orientation subie à une orientation choisie, mais la question de l'accompagnement des élèves sur cette affaire de l'orientation, elle arrive plutôt au milieu des années 1980.
Paul Lehner, il y a un point que je voulais faire avec vous. Vous avez dit qu'il y avait quelque part deux objectifs aussi dans la structuration, dans l'institutionnalisation aussi de cette question de l'orientation et des élèves, en l'occurrence des jeunes élèves. Vous avez dit qu'il y a satisfaire les besoins de l'économie d'une part et il y a préserver la valeur de certaines filières. De quelles filières on parle et est-ce que ça veut forcément dire qu'on se rend compte que si on laisse faire, entre guillemets, le goût ou en tout cas les préférences des élèves vont forcément conduire à ne pas choisir certaines filières qui ont pourtant besoin de cerveau ou de bras.
Quand je disais, en fait, au début des années 1960, vous avez un essai qui s'appelle « L'explosion scolaire » qui a été écrit par Louis Cross. Mmh. Et l'un des enjeux, c'était effectivement de pouvoir préserver, quand je dis, la valeur de certaines filières. C'était les filières longues, littéraires, les humanités, par exemple. Et d'essayer de faire en sorte qu'il y ait, on puisse canaliser un maximum ce flux, parce qu'il y avait une massification importante. Alors, j'aime pas le mot massification, on est plutôt sur de la généralisation de l'accès à l'enseignement secondaire. Il y avait pourtant d'autres besoins à satisfaire. Donc, il y avait, la démocratisation de l'enseignement se développe à partir du début des années 1950, vous avez aussi la création de plusieurs types de filières. Et l'idée, c'est que les élèves se répartissent de façon assez logique entre ces différentes filières. Sauf qu'il y a une demande d'accès à l'enseignement supérieur importante, ce qui génère en fait une sorte de goulot d'étranglement.
Oui. Ok, je vois la logique et qui répond d'ailleurs, enfin qui trouve écho aussi avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Georgia Thébault, vous le dites vous-même dans votre travail de thèse, c'est que à travers effectivement ce phénomène de massification qui est peut-être un peu trop global pour être tout à fait précis, on le disait à l'instant, vous montrez que l'augmentation du nombre d'étudiants ne se fait pas de façon égale entre les filières et dans toutes les formations, les nouveaux inscrits à l'université s'orientent plus vers certains domaines d'études comme les sciences, dont la filière sciences des activités physiques et sportives, STAPS, et les bacheliers professionnels essentiellement en STS. Est-ce qu'on peut parler finalement d'une forme de régulation aussi de la concurrence au sein des filières? Est-ce que c'est aussi à cela que servent les politiques d'orientation et que servent aussi les économistes de l'éducation en tentant de réguler, on va dire, le flux en fonction des capacités d'accueil, tout simplement, encore une fois, sous cette pression démographique-là, entre autres? Et c'est aussi une question de régulation, en fait.
Oui, alors, je ne sais pas si les économistes de l'éducation peuvent vraiment avoir quelque chose à dire sur les capacités d'accueil actuellement. Les capacités d'accueil, elles sont fixées par l'État. Mais en tout cas, Nous, ce qui nous manque actuellement pour vraiment pouvoir, on va dire, piloter un peu mieux le système, ça serait des informations plus précises, en fait, sur l'offre de formation, notamment sur un aspect que j'ai évoqué avant, c'est le rendement de l'éducation, c'est-à-dire le rendement des formations.
Alors là, il faut nous expliquer ce qu'on entend par rendement.
C'est-à-dire combien ça va nous rapporter, en fait, de faire une année d'études supplémentaires, finalement. Et ces rendements, ils sont pas évalués de la même manière par tous les individus. Donc, par exemple, on sait que les élèves issus plutôt de catégories socioprofessionnelles défavorisés vont plutôt tendance à avoir à sous-estimer les rendements de l'éducation. Mais donc pour tout ça, il faut avoir des informations précises sur différentes filières, quels sont ces différents rendements, et on n'a pas cette information actuellement.
Est-ce que c'est ce qui explique, Jean-Jacques Thébault, la question est tout à fait ouverte, mais est-ce que c'est ce qui explique que la Cour des comptes a constaté en 2023, si je ne m'abuse, que les financements des capacités nouvelles ne sont pas toujours proportionnés à la pression des candidatures et s'ajoutent à des places déjà suffisantes, sans corrélation avec les besoins effectifs? Je cite là les mots de la Cour des comptes, et qui constate donc que 38% des nouvelles places financées dans les universités en 2018-2019 sont restées vacantes. Est-ce que c'est par manque d'informations ou par manque de vision globale de où est-ce qu'il faudrait mettre l'argent pour créer quelle nouvelle place qu'il y a ce genre de défaillance?
Alors là, je ne pourrais pas vous répondre sur la Cour des comptes fait très bien son travail, je ne répondrai pas à leur place. Mais en tout cas, effectivement, de manière générale, il nous manque un certain nombre d'informations sur le pilotage en fait, de l'offre de formation. J'ai parlé des rendements, on reviendra peut-être plus tard sur Parcoursup et un certain nombre d'informations qu'on n'a plus dans Parcoursup, notamment les préférences des individus qui ont été partiellement réintroduites. Mais voilà, tout ça, c'est beaucoup d'informations qu'on aimerait avoir du point de vue de la recherche, pour pouvoir faire des suivis de cohortes, mais aussi du point de vue, j'imagine, administratif et étatique, pour pouvoir piloter les politiques éducatives.
Et donc, du point de vue des politiques publiques, alors il y a une forme de manque d'informations de ce côté-là. Il y a d'autres catégories de personnes qui manquent d'informations. Ce sont les élèves, entre autres, et leurs parents, de fait. Paul Henner, on a dit qu'il y avait cette pression démographique, en tout cas liée à des petits pics démographiques qui, de fait, se transforment en forme d'embouteillage dans certaines filières. Sauf que ça s'est aussi accompagné par un regain de l'offre, une augmentation de l'offre. Entre 2000 et 2010, le nombre de masters homologués a presque doublé. C'est un chiffre que cite Marie Durubella. Quelles conséquences a eu cette explosion de l'offre, d'une certaine manière, sur la façon dont les individus façonnent, construisent leurs arbitrages? Est-ce qu'il y a effectivement eu ce sentiment, ou en tout cas ce fait, d'avoir pas suffisamment accès à l'information, ou au contraire à trop d'informations pour faire un choix rationnel?
Alors, moi, j'ai beaucoup travaillé sur, finalement, la manière dont les politiques d'établissement du secondaire, donc plutôt au niveau donc du lycée et aussi du collège, développaient une politique en matière d'accompagnement à l'orientation. Et les élèves, donc votre question, elle porte plutôt sur ceux qui vont se destiner à l'enseignement supérieur. Les élèves, la plupart du temps, accèdent à un service d'accompagnement qui est ce qu'on pourrait qualifier d'un peu de minimal. C'est-à-dire qu'ils accèdent à pléthore d'informations sur finalement les prérequis, les attendus de certaines filières. Mais la plupart du temps, ce sont des informations qu'on pourrait qualifier de froides. C'est-à-dire qu'ils ont aussi du mal à se représenter ce que implique telle scolarisation, telle inscription dans tel ou tel master. Donc, je ne sais pas si c'est là-dessus que vous vouliez que je réagisse, mais ce sont des informations qui sont un peu minimales. Et de l'autre côté, ceux qui seront en mesure potentiellement de les informer ne sont pas en nombre suffisant pour leur apporter un accompagnement qui serait suffisant pour qu'ils se représentent bien quelles sont les implications d'une inscription dans telle ou telle formation.
Jean-Jacques Thébault, parmi les contraintes qui pèsent effectivement sur le choix d'orientation, est-ce que vous avez identifié aussi celui du manque de l'information, en tout cas la difficulté à y voir clair, on va dire?
Oui, alors il y a deux aspects dans ce que vous venez d'évoquer. Le premier, effectivement, c'est la contrainte d'information, et particulièrement donc les asymétries d'information, le fait que tout le monde n'a pas la même information en fonction de catégories socioprofessionnelles, des parents, en fonction de l'origine géographique, de plein d'éléments qui vont aider vraiment à prendre des décisions à ce moment charnière d'une transition entre le secondaire et le supérieur, où on peut avoir pas vraiment une idée claire, en fait, de son propre niveau scolaire, de ce à quoi on peut prétendre. Mais aussi, paradoxalement, depuis Parcoursup, on a aussi beaucoup d'informations. Donc, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'informations sur la plateforme, beaucoup plus que ce qu'on avait jamais pu avoir, en fait, finalement, sur les attendus des formations, sur l'offre de formation disponible. On a 24 000 formations, je crois, sur Parcoursup actuellement. C'est une charge cognitive aussi très lourde pour les élèves. C'est-à-dire, arriver à faire un choix parmi cet ensemble de formations, c'est très compliqué aussi. Et donc, d'où la question de l'accompagnement des élèves, y compris les élèves qui en auraient le plus besoin et qui sont prêts pas accompagnés par leur famille ou leur entourage par ailleurs.
Paul Lénard, vous souhaitiez réagir.
Oui, c'était juste pour compléter aussi, je vais dans le même sens que Georgia Thébault, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait autant d'informations sur les exigences, les attendus, les taux d'insertion professionnelle, les élèves peuvent maintenant faire leur moyenne Parcoursup, et en fonction de leur moyenne, voient si, oui ou non, ils ont plus ou moins de chances d'être acceptés dans telle ou telle filière. Évidemment que si on n'est pas accompagné, cette recherche d'information et ce calcul un peu coût-avantage à intégrer telle ou telle filière, il peut se révéler infini. C'est-à-dire que si on n'a pas les ressources et si on n'a pas cet accompagnement sur savoir finalement quelles sont les données et quels sont les critères les plus importants et auxquels il faudra qui vont être intégrés dans la décision, ça peut être très long, très complexe et forcément tous les élèves ne sont pas dotés de la même manière et accompagnés de la même manière.
Et ce qui peut faire douter dans le cadre de cette émission que nous consacrons au mot Economicus le lundi, qui peut faire douter d'une forme de rationalité aussi de ces individus-là et de toute façon c'est aussi le fil qui va nous tenir pendant toute l'émission, Georgia Thébault. Vous souhaitiez réagir?
Oui, je voulais juste dire que par rapport à ce que évoquait Paul, et je suis tout à fait d'accord. Et un autre point, c'est qu'en France, on se spécialise très tôt, en fait, finalement. Dans l'entrée dans l'enseignement supérieur, on ne choisit pas non seulement un type de filière, mais aussi exactement ce qu'on veut étudier. Et donc, en fait, c'est quand même une équation très difficile parfois pour les élèves à cet âge-là de savoir exactement ce qu'ils ont envie d'étudier. Et ça, on le voit très bien dans les taux de réorientation, c'est-à-dire qu'il y a des travaux en cours qui montrent qu'après la première année d'entrée dans l'enseignement supérieur, il y a près d'un élève sur trois qui repostule, en fait, sur la plateforme Parcoursup pour se réorienter. Donc, en fait, les paramètres de ce matching qu'on appelle en économie, ils sont très complexes et donc voilà, surtout quand on doit se spécialiser aussitôt.
Georgia Thébault, ça me permet de réagir aussi et de boucler avec ce que vous disiez en tout début d'émission sur les conséquences très concrètes pour les individus aussi d'avoir cet accès ou pas à l'information et puis de comprendre vraiment quelles répercussions ont les disparités d'accès sur le devenir de ces individus-là. J'en reviens à cette inégalité très forte que vous constatiez en début d'émission. Vous le disiez, l'accès à l'enseignement supérieur, il est profondément inégalitaire. Il est près de trois fois plus fréquent chez les jeunes issus de milieux aisés que chez ceux issus de milieu plus modeste. Parmi les 20% les moins aisés, environ un jeune sur trois est inscrit ou a été inscrit dans un cursus de l'enseignement supérieur, contre 9 jeunes sur 10 parmi les 10% les plus aisés. Les chiffres sont là, ils sont indéniables. En fait, s'intéresser aussi à la façon dont est gérée la répartition des étudiants dans les filières, c'est aussi un enjeu profondément démocratique, Georgia Thébault.
Oui, bien sûr. Pour revenir à ce qu'on disait en début d'émission, il y a un vrai enjeu d'équité du système. Et je pense qu'un point à avoir en tête ici, c'est que ces écarts en fait de taux d'accès aux différentes formations qu'on observe dans l'enseignement supérieur, ils s'expliquent que partiellement par des différences de performance scolaire. Parce que naturellement, on pourrait se dire, c'est parce que les élèves n'ont pas le niveau d'accéder à telle ou telle formation qu'ils n'y vont pas. Et en fait, c'est pas le cas. Ce que ça veut dire, c'est qu'à performance scolaire comparable, les élèves, ils vont faire des choix d'orientation différents en fonction de leurs caractéristiques sociodémographiques. Donc, par exemple, en genre, leur origine sociale ou encore leur origine géographique. Et donc, ça pose question quant à l'équité du système scolaire en France actuellement.
Paul Lénard, vous souhaitiez réagir un tout petit peu plus tôt au propos de Georgia.
Oui, il y a deux choses, merci. Non, c'était pour la question de l'incertitude et la question de l'information, ce qui est aussi très complexe pour les élèves quand ils sont sur Parcoursup, c'est qu'il y a une double injonction. Il y a l'injonction à développer finalement et à valoriser l'expression de choix et d'aspiration individuelle sur que ça concerne le métier, le secteur d'activité ou même des filières. Et en même temps, il y a cet appel au réalisme. Donc, il y a des élèves qui ont un peu de mal, si vous voulez, avec cette tension. C'est pas qu'ils ont un peu de mal, c'est qu'ils ne sont pas préparés et c'est extrêmement complexe. Et sur, effectivement, les déterminants et les inégalités en matière d'orientation, on voit aussi que, et Joanny Caillouet l'a bien montré pour un certain nombre d'élèves, mais aussi Hugo Paletta, enfin, les sociologues ont bien travaillé là-dessus, ont montré que les conseils qui sont donnés à des élèves, les conseils qui sont donnés à des élèves qui ont des résultats identiques, mais qui ne sont pas de milieux sociaux, qui sont de milieux sociaux différents, ces conseils sont différents. On va inciter des élèves qui ont, qui sont issus plutôt de milieux de classe moyenne ou classe supérieure à poursuivre leurs études, plutôt que pour des élèves qui sont issus de milieux de classe populaire, de faire finalement de réfléchir à une orientation plus professionnelle, des études plus courtes, à résultat égal.
Paul Lehner, j'ai une autre question pour vous. Je ressors le rapport de la Cour des comptes de mon chapeau, donc toujours en 2023. Un rapport qui, du reste, est cité dans un rapport de la Direction Générale du Trésor de juin 2024. La Cour des comptes, donc, propose de revoir les procédures d'adaptation des formations pour les rendre plus réactives aux besoins du tissu économique en prenant en compte les débouchés offerts et les perspectives réelles d'emploi, et ce, dès la phase d'accréditation des diplômes. Elle part de ce constat. Le taux d'insertion moyen dans les arts, lettres et sciences humaines et sociales est de 8 à 5% plus faible qu'en droit, économie, gestion, et de 6 à 3% plus faible à la moyenne en sciences, technologie et santé. Or, la Cour des comptes constate, ce qui est factuel, hein, que le nombre d'étudiants à l'université, alors qu'il a progressé de 16% entre 2011 et 2021, a progressé de 22% sur la même période dans les licences des arts, lettres, langues et sciences humaines et sociales. Pour le résumer, il y a un nombre trop grand, selon la Cour des comptes, d'étudiants qui se dirigent mal par rapport aux besoins du marché. Est-ce là, et là, Paul Lehner, je vous pose la question et vous y répondez librement, est-ce là le rôle des politiques d'orientation que de résorber ce genre d'inadéquation ?
Ah, c'est une grosse question que vous posez là. Je ne sais pas si c'est le rôle des politiques en matière d'orientation. On va dire que c'est une des finalités qu'on peut relever quand on travaille sur la manière dont la question de l'orientation va évoluer au fur et à mesure de l'histoire. C'est vrai qu'il y a toujours cette idée qu'il va falloir faire en sorte qu'on rapproche le plus possible les sorties du système éducatif des besoins de l'économie. Maintenant, Georgia Thébault en a parlé, l'orientation quand elle a émergé, et je l'ai dit tout à l'heure, dans l'entre-deux-guerres, c'était aussi un enjeu démocratique. Donc il faut se poser la question, et c'est pour ça que le recours à l'histoire, aux archives, est primordial, parce que c'est une question politique.
Donc, oui. Allez-y, je vous laisse poursuivre.
C'est une question politique, et si effectivement on s'intéresse qu'à la demande sociale, on pourrait avoir tendance à occulter complètement cette dimension de la politique d'orientation. Donc c'est un enjeu fort de savoir si effectivement il faut avant toute chose regarder et tenir compte des besoins du marché, ou si finalement on veut faire de l'orientation un moyen d'émancipation, et ensuite on verra dans quelle mesure ça peut résonner sur l'économie.
C'est un enjeu politique et démocratique, on l'a bien compris. Cela dit, si on revient à des considérations plus bassement matérielles, on va dire, Georgia Thébault, on voit aussi comment les inégalités se renforcent les unes les autres, des choix pris sous la contrainte ou de façon mal renseignée. C'est autant de risques de voir un parcours scolaire heurté ou qui doit recommencer à zéro. En France, 42% des néo-bacheliers de 2019 n'ont pas validé leur première année de licence, 37% redoublent au moins une fois. On pourrait se dire, là encore de façon bassement matérielle, on pourrait se dire que tout cela a un coût, à la fois pour les individus concernés, ça ne coûte pas rien de faire des études, mais aussi pour la collectivité. Est-ce que c'est cela qui justifie aussi l'attention portée à cette question de l'appariement du point de vue des politiques publiques ?
Oui, alors effectivement, le coût est une dimension importante pour le pilotage des politiques publiques éducatives dans ce domaine-là. Il y a la question de l'équité, on l'a déjà mentionné. Ça, c'est deux dimensions, effectivement, qui rentrent en compte. Après, comme le disait très bien Paul tout à l'heure, la question l'orientation ne soit pas seulement subie par les élèves, mais que ce ne soit pas seulement une orientation par défaut, mais que les élèves puissent s'épanouir dans leur choix d'orientation, c'est quand même une question importante. Et là, par exemple, sur la question des préférences, un travail qu'on avait fait avec Nagui Béchichi, qui avait été publié dans une note de l'INSEE, montre que les élèves qui ont accès à leur premier vœu, donc sur admission post-bac, ont plus de chances de s'inscrire dans l'enseignement supérieur, mais ils ont aussi plus de chances de persévérer dans cette filière-là, donc moins de réorientation et plus de chances d'obtenir leur diplôme à la fin. Et donc du coup, la question aussi de satisfaire les préférences des étudiants et des étudiantes, c'est une question quand même importante, et il faut se donner les moyens de pouvoir satisfaire ces préférences et donc d'avoir des informations sur cela.
Je veux pas faire de CAP.
Ton dossier est trop faible.
Et je redouble.
Écoute, on a déjà choisi cette option l'année dernière, tu vas pas tripler ta troisième. Faut avancer là, Mariam, maintenant.
Et je passe en seconde alors.
Je t'ai préparé le dossier, la liste des CAP, des établissements. Regarde.
J'en veux pas. Je veux aller en général.
C'est pas possible.
S'il vous plaît.
Je peux pas.
C'est pas ma faute. Je vous jure que c'est pas ma faute.
Mais c'est la faute de qui alors, Mariam ? Dis-moi. Écoute, il y a de bons CAP, tu verras. Il y a l'alternance, tu trouveras un travail plus vite. Tu pourras partir de chez toi-même. Prends les papiers, regarde-les.
J'en veux pas. Je vais faire comme tout le monde. Normal.
Ça, il fallait y penser avant.
Un extrait du film Bande de filles, réalisé par Céline Sciamma, est sorti en 2014. Alors, dans le cadre de ce marché structurellement inégalitaire et imparfait qu'est la formation scolaire, comment les élèves, quel que soit leur niveau, on va dire, là on entendait un extrait qui se situe plutôt à la fin du collège, mais on pourrait aussi parler de cette étape cruciale de la fin du lycée, comment ces élèves-là choisissent de s'orienter vers telle ou telle filière, par quoi est déterminé ce choix. On continue d'en parler dans Entendez-vous l'écho sur France Culture. Georgia Thébault, on va rentrer dans le dur de notre affaire. Pour comprendre la notion de choix, il faut nécessairement comprendre celle de contrainte. On a commencé à en évoquer un certain nombre, qui est la structure institutionnelle aussi, que sont les choix de formation. Je voudrais évacuer une première donnée. Dans quelle mesure les performances scolaires, c'est ce qu'on entendait dans cet extrait aussi, les performances scolaires pèsent dans ce choix? Est-ce que à performance scolaire égale entre élèves, on se rend compte que d'autres mécanismes viennent jouer?
Donc, effectivement, comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, les performances scolaires, elles ne rendent compte qu'une partie des écarts de taux d'accès dans les différentes formations du supérieur. Donc, à la fois dans l'entrée dans l'enseignement supérieur et ensuite dans la répartition des élèves dans les différents types de formations. Donc, on peut résumer à peu près trois types de contraintes. La première, ça serait plutôt des contraintes matérielles, c'est celle auxquelles on pense de manière assez intuitive, donc les contraintes financières, donc faire des études, ça a un coût direct, mais aussi un coût indirect, qui est ce qu'on appelle le coût d'opportunité, c'est-à-dire que je renonce à un salaire que je pourrais avoir sur le marché du travail pour pouvoir faire des études. Des contraintes géographiques, sur lesquelles on reviendra peut-être après, mais effectivement, l'offre de formation dans l'enseignement supérieur, elle n'est pas répartie de manière égale sur le territoire, elle est concentrée dans les grands centres urbains. Donc en fait, si j'habite dans une petite commune, il va sûrement falloir que je parte de ma commune pour aller faire des études dans une grande ville, et ça, ça a un coût. Et puis, des contraintes d'information, on les a pas mal mentionnées ici, donc il faut avoir de l'information sur les différentes offres. Et puis, cette idée que les aspirations scolaires, elles sont façonnées par l'environnement des élèves. Et donc ça suppose pas seulement des contraintes matérielles, mais aussi par exemple des facteurs comme l'intériorisation des stéréotypes sociaux et de genre.
C'est-à-dire qu'il y a de l'autocensure,
Alors c'est pas que de l'autocensure. L'autocensure, ça fait aussi beaucoup porter la responsabilité sur les individus. Mmh. C'est comme si les individus se censuraient, alors que il faut aussi leur ouvrir les portes. Donc il n'y a pas que de l'autocensure. Mais dans la question de, par exemple, l'accès aux filières scientifiques pour les femmes, qui est un sujet dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, l'intériorisation des stéréotypes de genre va avoir un impact à la fois sur le goût développé pour les sciences, mais pas que. En fait, l'intériorisation de ces stéréotypes va avoir aussi un impact sur les performances scolaires. C'est-à-dire que parce qu'il y a ce stéréotype dans la société que les femmes réussissent moins bien en maths, ça va me provoquer de l'anxiété. Et donc, du coup, je vais moins bien réussir. Et ça va avoir un impact sur l'orientation.
Et sachant que ces barrières psychologiques, symboliques aussi, on les retrouve aussi dans le choix, de façon très concrète, dans le choix justement, et là, on en revient à la question géographique, dans le choix d'accepter de se déplacer ou non, ou de prendre en charge. Ça joue aussi, Georgia Thébault.
Oui, bien sûr.
Au-delà des contraintes financières, dans quelle mesure ça joue le fait de cette barrière psychologique dans le choix de la mobilité?
Oui, bien sûr. En fait, effectivement, le fait de partir étudier, par exemple, dans une grande ville, si j'ai envie d'aller faire une classe préparatoire aux grandes écoles et que la seule disponible, elle est dans une grande ville alors que je ne viens pas de ce milieu-là, et non plus de ce milieu social, au-delà des contraintes financières, il y a aussi cette barrière symbolique, ça les sociologues l'ont très très bien montré, à l'accès à ce type de formation.
France Culture.
Pourquoi t'as arrêté l'école, toi?
Dès qu'on m'a parlé d'orientation, là, de ces PPN, j'ai laissé tomber. Ça, c'est bon, je suis plus un débile.
Entendez-vous l'écho?
Mais c'est pas pour les débiles. La SPPN, c'est pour remettre les élèves dans un parcours classique, non?
Mais c'est des conneries. Jamais de la vie. C'est un truc de gogol, ça. Les mecs de mon genre, on sait d'où ils viennent et on sait où ils vont.
Aliatovine.
Toutes ces contraintes que nous venons d'évoquer avec vous, Georgia Thébault, s'inscrivent et sont renforcées aussi par un contexte institutionnel. Ces derniers, on a commencé à le voir avec vous. Paul Lehner a été largement défini par des politiques assez volontaristes en termes d'accès à l'enseignement supérieur, mais aussi par toute une série de mesures qui ont tenté d'encadrer l'accès des élèves à l'information afin de s'orienter. Paul Lehner, à partir de quand, vous avez commencé à le dire, dans cette entre-deux-guerres aussi, à partir de quand on se pose la question de la prise en compte des aspirations, des aptitudes, mais aussi des goûts des élèves dans le choix de son orientation, dans le choix de son parcours? Pour quelles raisons commence-t-on à s'en préoccuper?
Alors oui, je disais tout à l'heure que l'orientation, elle était liée à l'histoire de la démocratisation de l'enseignement, et effectivement, ça va être plutôt dans l'entre-deux-guerres qu'on va penser la question de l'orientation et des aptitudes. Alors on va pas forcément parler tout de suite des goûts et des aspirations, mais parce que dans l'idée d'orientation, c'est on met la bonne personne au bon endroit en fonction des résultats à des tests psychotechniques, et le résultat de ces tests va permettre justement de montrer que tel ou tel élève a des aptitudes pour exercer tel ou tel métier. Et donc, c'est ce qui va servir à faire la critique de l'organisation du système éducatif de la Troisième République, qui, en fait, reposait largement sur les origines sociales. Et on pensait qu'avec ce type de modèle, donc de l'orientation professionnelle basée donc sur des résultats à des tests, donc l'expertise des psychologues expérimentaux, on pourrait définir et construire une société qui fonctionnerait mieux.
Vous dites d'ailleurs que c'est en 1924 que les psychologues sont placés au rang d'experts en politique scolaire. Les professeurs restent tout de même écoutés en termes de décision dans les débats scolaires. Est-ce qu'il y a une forme de compétition entre les deux corps de métier?
Vous avez dit quelle date? J'ai pas entendu.
Alors, parce que j'ai lu 1924, vous aviez dit.
Alors, 1924, il va y avoir un débat en fait sur la place des conseillers d'orientation et sur la place des psychologues expérimentaux dans les commissions de réforme de l'enseignement, parce que vous imaginez bien que du coup, on organisait l'orientation sur la base des tests et des aptitudes, les enseignants n'auraient plus grand-chose à faire. Donc, à un moment donné, il y a eu ce compromis en disant que la sélection allait reposer sur à la fois les résultats scolaires, mais aussi les résultats des tests psychotechniques. La question, finalement, des aspirations et du projet de l'élève arrive, à mon sens, plutôt au cours des années 1960. C'est-à-dire que les résultats aux tests et la psychotechnique plus généralement sont assez décriés, et on va plutôt imaginer que l'élève a des capacités qui vont pouvoir se développer au fur et à mesure de sa scolarité et qui ne sont pas à chaque fois décelables à un instant T.
C'est intéressant, ce moment des années 60 aussi, où se cristallisent beaucoup de choses et l'idée d'une véritable doctrine aussi qui émerge à ce moment-là. C'est un moment où le collège d'enseignement général se développe, les filières modernes au sein des lycées également. On parle d'une première explosion scolaire, c'est ce que vous nous disiez en début d'émission. Entre 1960 et 1967, le nombre d'étudiants augmente de 130%, c'est son taux de croissance. Une réforme de l'orientation scolaire est alors engagée. Là encore, Paul Lehner, on le comprend, c'est pour juguler le flux, c'est encore une fois pour éviter l'effet embouteillage. C'est cela qui on va dire, préside à cette prise en compte par le politique.
Oui, alors cette explosion scolaire, elle conduit en fait les politiques à essayer de ménager à la fois l'objectif d'élargir le recrutement de l'enseignement secondaire long et de l'enseignement supérieur, et en même temps de satisfaire aux besoins du plan. Donc c'est à ce moment-là qu'on va réfléchir à la création d'un office qui va devenir l'office que vous connaissez bien, qui est l'ONICEP, qui était donc prévu par De Gaulle et toute son équipe, et qui va ils vont être obligés de revoir la copie parce qu'il va y avoir les événements de 1968. Donc c'est à ce moment-là qu'on va penser la création d'un système d'orientation et qui va ensuite prendre forme par la création, donc je le disais, de l'Office national des informations sur les enseignements et les professions, mais aussi la mise en place des nouvelles procédures d'orientation au début des années 1970.
Alors peut-être que le parallèle ne doit pas forcément être fait entre aujourd'hui et cette époque-là. Quand vous parlez des besoins du plan, est-ce que c'est l'identification de filières qu'on qualifierait aujourd'hui de en tension et donc d'un besoin de main-d'œuvre à ce moment-là, c'est cela les besoins du plan?
Oui, c'est des prévisions économiques pour il y a des secteurs qui ont besoin de main d'œuvre et il va falloir essayer de leur fournir. Donc il y a des estimations et on fait du coup des taux. Il faut que telle ou telle filière soit remplie à tel niveau, et si c'est pas le cas, faut trouver le moyen de réguler autrement les sorties du système scolaire.
Alors pour bien comprendre ce qui s'est joué à ce moment-là, je vous propose d'écouter un extrait d'une interview diffusée le 17 novembre 1966 sur Télé Loire Océan, dans laquelle on entend monsieur Schmitt, recteur de l'Académie de Nantes.
Il faut bien se rendre compte que le système de réforme actuel repose sur le principe d'orientation, comme vous venez de souligner, en sixième et en seconde. Et on a créé à cet effet des conseils qui fonctionnent. On a créé des professeurs principaux. Il y a des conseils de classe. Et c'est évident que les professeurs sont beaucoup mieux placés pour juger l'élève que les parents eux-mêmes. Et je crois qu'il faut faire confiance à cette organisation, et nous demandons, le conseil qu'on peut donner aux parents, c'est de s'adresser à des personnes qualifiées, hein, c'est-à-dire aux responsables, aux chefs d'établissement, plutôt que s'adresser à une personne qui ne l'est pas.
Le 26 mai 1966 est donc validée la création d'un office national d'information et d'orientation scolaire. C'est ce qu'on disait à l'instant. On entendait là dans cet extrait bon, un débat qui a toujours cours aujourd'hui. De est-ce que, voilà, dans quelle mesure les parents doivent écouter les professeurs et dans quelle mesure c'est effectivement ce qu'il se passe. Paul Henner, vous avez déjà prononcé ce mot, mais il faut revenir dessus. Vous dites que c'est l'instauration de la logique adéquationniste à ce moment-là. Alors à quoi correspond cette logique adéquationniste ?
La logique adéquationniste, c'est un petit peu ce que je décrivais tout à l'heure, c'est essayer de faire correspondre un certain nombre, donc les flux, hein, les sorties de l'école à des besoins de l'emploi qui sont très spécifiques. Donc on va essayer de faire correspondre un certain nombre de sorties du système éducatif avec des besoins qui sont identifiés. Donc on va définir la politique d'orientation en fonction des besoins de l'économie.
Tout en laissant le mot tout de même aux familles et aux élèves ou absolument pas ? Quelle place est laissée à cette...
Alors, cette place qui est donnée plus aux élèves et à la famille, elle va vraiment davantage être importante au début des années 70. Mmh. D'accord ? Donc, au début des années 70, mais je parle sous le contrôle de Georges Athébault, l'idée d'adéquationnisme est récusée et on est plus dans une logique de prospective, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on imagine pour la suite et qu'est-ce qu'on voudra développer d'un point de vue économique. Donc, on va essayer de créer, on va définir peut-être des tendances, mais on laissera un peu de côté cette idée qu'il va falloir à tout prix faire en sorte que, en fonction de besoins d'économie, on ait tant de pourcentage d'élèves qui s'engagent vers telle ou telle filière.
Georges Athébault, vous confirmez, c'est effectivement dans les années 70 qu'il y a cette bascule-là, ou en tout cas qu'on quitte un peu cette logique absolument adéquationniste.
Alors, pour le coup, je pense que Paul est mieux qualifié que moi pour répondre à cette question, mais effectivement, cette logique adéquationniste, elle est problématique, parce que bon, il faut quand même bien évaluer quels sont les besoins de l'économie, et puis c'est une question qui est quand même complexe à évaluer, et puis il faut se donner aussi les moyens, c'est-à-dire que pour revenir à ce qu'on disait en début d'émission, on place des objectifs, 80% d'une génération au baccalauréat, 60% d'une génération qui va obtenir l'équivalent d'un diplôme de licence, mais après on fait des réformes, mais il faut quand même avoir les capacités pour pouvoir accueillir les élèves, pour revenir à la question de l'enseignement supérieur. Et par exemple, une réforme qui a eu lieu, c'est celle de la réforme du baccalauréat professionnel qui a eu lieu au milieu des années 2000. Et en fait, ça a induit énormément de gens à avoir maintenant le titre du baccalauréat et donc à prétendre à des études supérieures. Or, il faut pouvoir les accueillir dans l'enseignement supérieur et donc se donner les capacités adéquates pour pouvoir accueillir ces élèves-là. Up in the morning and out to school. The teacher is teaching the golden rule. American history and practical math. You study them hard, hoping to pass. Working your fingers right down to the bone. And the guy behind you won't leave you alone. Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. You're fortunate if you have time to eat. Back in the classroom, open your books. See, but the teacher don't know how mean she looks. Soon as 3 o'clock rolls around, you finally lay your burden down. Close up your books, get out of your seat. Down the halls and into the street. Up to the corner and round the bend. When you go in, drop the coin right into the slot. You gotta hear something that's really hot. With the one you love, you're making romance. All day long you've been wanting to dance. Feeling the music from head to toe.
Vous êtes bien à l'écoute de France Culture. Comment les élèves opèrent-ils leur choix d'orientation entre contraintes et préférences? Et dans le contexte bien spécifique de l'offre de formation telle qu'elle se structure en France, quelle place pour la rationalité et le choix véritable? On continue d'en parler avec l'économiste Georges Athébault et le sociologue politiste Paul Henner. Paul Henner, nous étions quittés à la toute fin des années 60, début des années 70. Après cela, comment se structure la question de l'orientation et notamment vers le supérieur? Est-ce qu'on parlait d'une repolitisation et notamment dans les années 2000, 2000, est-ce qu'on se rend compte, est-ce qu'on a besoin de tous ces décennies-là pour se rendre compte que la logique mise en place ne porte pas forcément ses fruits, en tout cas n'est pas forcément d'une folle efficacité, pour le dire ainsi?
Oui, alors pour revenir sur le plan historique, c'est vrai qu'on s'est quitté au début des années 70, et je disais tout à l'heure que sous Savary, mais aussi Chevènement, et puis ensuite sous Jospin, on a pensé la question de l'accompagnement à l'orientation, l'élaboration de ses choix, par les enseignants notamment. C'est ce qui a donné lieu aux circulaires de 1996 sur l'éducation à l'orientation. Donc on avait vraiment misé sur le côté éducation, hein, éducation transversale à l'orientation. Sauf qu'effectivement, au début des années 2000, vous avez un certain nombre d'événements, et puis vous avez cette question lancinante de l'insertion professionnelle, et vous l'avez rappelé à plusieurs reprises, de l'échec ou de l'abandon aux premières années dans l'enseignement supérieur, qui sont analysés comme finalement quelque chose d'assez coûteux. Et vous avez les émeutes de banlieue, c'est comme ça que c'est ce qui s'est passé en 2005 a été nommé et caractérisé, mais qui remet sur le devant de la scène la question de l'insertion professionnelle. Et donc, on va moins être dans une logique d'accompagnement et plus dans une logique d'information. Hein, on est vraiment sur un paradigme informationnel, c'est-à-dire que il va y avoir une critique assez forte des services d'orientation qu'on va juger très cloisonnés, assez opaques, insuffisants, et pour cause, hein, les effectifs des conseillers d'orientation qui sont devenus les psychologues de l'éducation nationale, éducation, développement, orientation, n'ont pas bougé. On est sur un conseiller d'orientation, un PSIEN et d'eau, donc pour 1500 élèves. Et donc, la critique qui est adressée, c'est celle-ci, c'est qu'il faut décloisonner et il faut rendre accessibles les informations. Comment est-ce qu'on s'y prend? Eh ben, on recourt à des plateformes numériques. Donc, ça, c'est des idées qui ont été développées, y compris chez Dominique de Villepin quand il était Premier ministre. Donc, ce sont des idées qui ont 20 ans. Et on voit aujourd'hui que la profusion des plateformes en matière d'orientation en est bien le résultat. C'est-à-dire que la politique s'est surtout focalisée sur l'accessibilité de l'information. Et moins sur l'idée qu'il va falloir accompagner les élèves à faire face à l'incertitude et à développer un certain nombre de compétences.
Et là, je fais un petit bond dans le temps malgré tout, mais c'est dans cette continuité, dans cette logique-là qu'arrive le 8 mars 2018, jour du vote de la loi relative à l'orientation et à la réussite des étudiants, dite OR, instaurant notamment un accès facilité à l'enseignement supérieur. Je cite là son intention. Elle a notamment entraîné la mise en place de la fameuse plateforme Parcoursup, censée garantir un accès plus juste et plus transparent dans le supérieur, tout en laissant le dernier mot à l'étudiant. Georgia Thébault, qu'est-ce que change fondamentalement cette loi, et notamment pour les filières en tension? Est-ce qu'il y a un avant et un après 8 mars 2018?
Alors, la loi OR, effectivement, elle va introduire deux changements majeurs qui sont souvent confondus dans le débat public, à raison, parce que c'est un peu compliqué. Mais en fait, la loi OR, elle introduit d'abord un changement sur les critères de sélection qu'on va utiliser pour classer les candidatures, et des changements sur le mécanisme d'appariement. Donc en fait, vraiment, les caractéristiques de l'algorithme qu'on utilise pour faire ce matching entre les élèves et les formations. Sur le premier point, les critères de sélection, ce qu'il faut avoir en tête, et ça revient un peu à ce dont on a parlé plusieurs fois, de la question démocratique et du politique, c'est que en fait, les critères de sélection qu'on utilise pour classer les candidats, ils sont pas édictés par la plateforme, mais par des décideurs publics. Et donc du coup, à ce moment-là, on a introduit pour les licences non sélectives historiquement en tension, la possibilité de trier les candidats en fonction de leur dossier scolaire, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, ces règles de sélection...
Parce qu'auparavant, c'était du tirage au sort.
Qu'auparavant, c'était du tirage au sort. Donc ça, on a beaucoup travaillé là-dessus avec Nagui Béchichi, encore une fois. Ces règles de sélection, elles étaient quand même opaques avant. Le tirage au sort, c'est pas très très clair. Mais c'est vrai que ça a remis en question, dans le débat public, la question des algorithmes locaux et de comment, finalement, on trie les candidatures des individus. Ça pose aussi la question, effectivement, avec la généralisation, en fait, de la sélection dans le système et de la compétition, des stratégies d'accompagnement, pour revenir à la question de l'orientation, des stratégies différenciées pour valoriser son dossier, notamment en fonction de l'origine sociale. On sait qu'on ne va pas avoir exactement le même recours à des coachs en orientation privée ou pas. Et donc, du coup, ça pose des questions d'équité.
Et de façon d'autant plus prégnante, d'autant plus forte, que Elisabeth Borne, ministre de l'Éducation nationale, le racontait encore le 7 avril dernier. Cette instauration de la plateforme Parcoursup incite aussi à s'y prendre de plus en plus tôt pour choisir son orientation future.
Parcoursup, finalement, c'est l'outil. C'est l'outil qui permet de rapprocher de nombreuses offres de formation, des demandes, des attentes, de tous les jeunes qui souhaitent s'inscrire dans l'université, soit la première fois, soit en réorientation. Et vous savez que cette année, on a près d'un million de jeunes qui sont inscrits sur Parcoursup, dont 200 000 en réorientation. Je pense que notre problème aujourd'hui, et ça fait l'objet d'une concertation, c'est la question globale de l'orientation. De l'orientation qu'on ne doit pas définir au moment où on remplit ses choix Parcoursup, mais pour lesquels je pense que c'est très important, et ça a été un des thèmes de la réunion, de l'échange que j'ai eu avec les recteurs la semaine dernière. Il faut se préparer très jeune, enfin dès le départ, presque depuis la maternelle, à réfléchir à la façon dont on se projette dans une formation et dans un métier demain.
Donc c'était Elisabeth Borne sur LCP le 7 avril 2025. Parcoursup est présenté comme un outil et puis surtout il y a cette idée très forte de devoir s'y préparer très tôt. Bon, alors elle le dit peut-être de façon caricaturale, mais dès la maternelle. Georges Yatebo, il faut nous expliquer la logique, pourquoi l'instauration de ces plateformes numériques effectivement incite à s'y prendre de plus en plus tôt pour les élèves, leurs proches et les parents.
Alors, je ne sais pas si c'est l'instauration des plateformes numériques en tant que telles qui fait ça. C'est plutôt, comme je le disais tout à l'heure, finalement, en économie, nous, on aime bien la centralisation. C'est-à-dire qu'avoir une plateforme centralisée sur laquelle tout le monde va postuler, ça va permettre d'avoir une information précise, en fait, sur l'offre de formation disponible. Ça permet d'avoir des mécanismes d'allocation qui sont normalement, en fait, même plus équitables. Donc, en fait, la question de la plateforme en soi n'est pas tellement le problème. Encore une fois, c'est plutôt, avec cette plateforme, a été induit des changements dans les règles de sélection à l'université notamment qui remet en cause quand même un certain nombre de principes, notamment ce qui était inscrit dans le code de l'éducation qui dit que tout le monde a accès normalement à une formation du supérieur après un diplôme du secondaire. Et donc du coup, finalement amène des questions sur quels sont les critères qu'on va utiliser pour sélectionner les élèves. Et ça, finalement, il y a quand même un grand champ encore aujourd'hui en économie et en sociologie pour savoir c'est quoi les facteurs de réussite dans l'enseignement supérieur. Et peut-être que les critères que l'on utilise actuellement pour sélectionner les élèves sont pas forcément ceux qui vont permettre le meilleur matching, aussi bien au niveau des taux de réussite, mais aussi par rapport aux élèves qui sont les plus motivés. Enfin, il y a plein de considérations qui peuvent être prises en compte ici.
Et puis, Paul Lehner, on l'entendait aussi dans cet extrait sonore, tout l'enjeu est de réfléchir à la façon dont on se projette dans un métier demain. Ce sont les mots d'Elisabeth Borne. Est-ce que c'est cela la logique qui prévaut? Vous avez beaucoup étudié la façon dont ces plateformes numériques, pour le coup, avaient façonné aussi une nouvelle logique. Est-ce que cela a changé fondamentalement?
Alors pour moi, ça a renforcé. Ça n'a pas changé grand-chose, mais ça a renforcé l'idée que il faut faire des choix de façon optimale en fonction d'un certain nombre de critères qu'on ne maîtrise pas, et il va falloir gérer l'incertitude. On a utilisé une expression avec un collègue, Clément Pain et Anne-Claudine Oller, quand on a travaillé sur les plateformes, c'est la domestication de l'incertitude. Donc c'est pour organiser, l'efficience, d'accord. Ça montre aussi que du coup l'orientation, elle est essentiellement perçue sous l'angle de choix. Et l'orientation, elle peut être aussi pensée pas comme sous l'angle des choix, mais plutôt comme finalement comment on se positionne dans le monde de demain, quels sont les enjeux auxquels on devra faire face dans les 10, 15 ou 20 prochaines années. Et ça montre simplement que la considération de l'orientation est exclusivement perçue comme l'élaboration de choix précis et le fait d'intervenir dans certains secteurs d'activité. Alors qu'on pourrait la penser plutôt comme la compréhension qu'on a du monde dans lequel on est, de la société dans laquelle on évolue, pourquoi pas aussi de son établissement scolaire, et quel rôle on veut y jouer, en fait.
Mais dans ce cas, cela favorise plutôt les élèves indécis, mais qui seraient très bien accompagnés, ou plutôt davantage ceux qui n'ont pas tellement une idée, mais se retrouvent par défaut avec un choix.
Et donc, ce renforcement de cette logique de la gestion d'incertitude, elle va surtout se retrouver chez des élèves qui correspondent pas tout à fait aux attendus de l'école, à qui on va demander un peu rapidement d'avoir un projet d'orientation. Vous savez, c'est l'injonction au projet, c'est toujours pour ceux qui, au bout d'un moment, seront écartés, on l'a entendu à travers les extraits que vous avez passés, écartés de la voie normale. Et on pourrait dire qu'il y a d'autres élèves qui seront un peu plus canalisés, mais pour beaucoup d'élèves qui correspondent aux attendus de l'école, l'incertitude n'est pas un problème. On envisage l'avenir sereinement et l'incertitude, on verra comment on peut y faire face plus tard.
Jean-Jacques, c'est pour vous souhaiter.
Oui, juste pour rebondir très rapidement sur ce qui a été mentionné sur l'incertitude. Par exemple, maintenant dans Parcoursup, on a des propositions au fil de l'eau. Donc en fait, c'est-à-dire que si on a un bon élève, on va être souvent classé en haut des classements des formations, donc on va avoir des propositions en premier. Si on a un élève avec un dossier scolaire un peu moins solide, on va avoir des propositions plus tard. Ça veut dire que l'incertitude en fait sur ce qu'on va faire en septembre, elle est plus forte pour ces élèves-là que pour les élèves avec un dossier scolaire plus fort. Et ben voilà, et ça pose aussi la question sur qui on fait reposer l'incertitude dans le choix d'orientation.
Et puis Paul Lehner, il y a une autre distinction que nous n'avons pas encore opérée, c'est la très forte différence de traitement aussi entre le bac professionnel et puis ceux des voies générales et technologiques. On les oriente effectivement différemment dans ce contexte-là.
Alors, sur les bacs professionnels, la difficulté pour les enseignants, ça va être d'arriver à maintenir et à garder les élèves le plus longtemps possible pour qu'ils puissent continuer à faire des études, parce que bien souvent, ils sont plutôt appelés par les employeurs pour, à la sortie du bac, exercer des métiers qu'on leur a proposés dans le cadre de leur stage, en fait, une forme de continuité du stage, voilà.
Paul Lehner, nous avons retracé une histoire très longue aussi de ce corps de métier que sont les conseillers d'orientation. Est-ce que l'irruption de ces plateformes numériques, en l'occurrence plus forte raison Parcoursup en 2018, a changé la donne pour eux en termes de reconnaissance et aussi de fonds alloués, de moyens alloués?
Alors, c'est une bonne question sur les psychologues de l'éducation nationale, donc qui s'appellent comme ça depuis 2017. En tout cas, ça a permis, c'est pas que les plateformes, c'est aussi la circulaire de 2018 qui reconnaît aux enseignants un rôle plus important, une responsabilité plus importante en matière d'accompagnement à l'orientation, qui est pas très bien vécue et qui est très difficile parce que les enseignants, vous savez qu'ils sont aussi surchargés, le point d'indice n'a pas évolué depuis 30 ans, et donc il y a un manque de reconnaissance important, et pourtant, on leur demande en plus de s'occuper de la question de l'orientation, voilà. Mais pour les psychologues de l'éducation nationale, cette circulaire les a fait apparaître comme des experts de la question de l'orientation à qui on pouvait justement s'adresser pour essayer de trouver des réponses. Et ça a permis aussi une chose, c'est que l'orientation ne peut pas être réduite à de l'information et on se rend bien compte qu'il va falloir faire un peu de psychologie de l'adolescence, du développement et intégrer des éléments de connaissance en sociologie pour accompagner le jeune dans ses choix d'orientation.
Mais ce qui est intéressant, Paul Lehner, et je vous passe la parole tout de suite, Jean-Jacques Thébault, ce qui est intéressant, Paul Lehner, c'est qu'on voit d'autres stratégies qui sont élaborées progressivement, et notamment celle du recours à la privatisation, finalement, de ce que pourraient être les conseillers d'orientation. C'est ce coaching beaucoup plus privé, c'est quelque chose qui s'est développé aussi à l'aune et dans le contexte des plateformes numériques. Est-ce que ça peut être considéré comme une forme de dérive, ou en tout cas cette espèce de course à l'information aussi qui se concrétise dans cette privatisation?
Je pense que c'est le résultat de cette montée de l'anxiété et de cette incertitude qui est mal gérée parce que il y a une profusion d'informations, une profusion de plateformes. Cette tension, on l'a rappelé, très forte entre la valorisation de l'expression de soi, de la connaissance de soi et de l'autre côté, l'appel au réalisme avec le taux d'insertion professionnelle, le taux d'élèves qui ont été retenus chaque année sur Parcoursup, ce qui génère pas mal d'anxiété et quand on n'est pas accompagné, puisqu'il y a peu de moyens du service public d'orientation, peu de conseillers, peu de psychologues, l'éducation nationale et les enseignants font ce qu'ils peuvent. Ceux qui sont en mesure de le faire font appel à des plateformes privées ou à des coachs privés.
Georgia Thébault, vous souhaitiez réagir?
Oui, juste un point très rapide, c'est qu'en amont, on peut aider les élèves à construire